Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakiza avec vous depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du 1er octobre 2020. Voici d'abord le sommaire. Une mission de la CDAO et de l'Union africaine dépêchée à Conakry avant l'élection présidentielle du 18 octobre.
L'enjeu de cette élection est très important. Ça paraît être la plus importante élection de ces 10 dernières années.
Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, mobilisé congolais pour réclamer justice pour les violations des droits humains depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Les nouvelles autorités de Khartoum et les rebelles soudanais vont signer samedi un accord de paix pour mettre fin à 17 ans de guerre. Le président Donald Trump a annoncé une nouvelle réduction du quota de réfugiés admis aux États-Unis. Les présidents Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump lancent un appel pour l'arrêt immédiat des combats au Karabakh. Et pour l'actualité économique et les sports, c'est dans 10 minutes, juste après le journal. Au Mali, la junte a renoncé à ce que son chef puisse remplacer le président dans la transition censée ramener les civils à la tête du pays. La junte accède ainsi à une exigence primordiale de la CDAO pour lever les sanctions imposées au Mali le 20 août, deux jours après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de transition Bandow a reçu aujourd'hui le représentant de la CDAO Amidou Boly, porteur d'un message de médiateur de la CDAO. Le Nigeria a célébré aujourd'hui 60 ans d'indépendance. Confronté à d'immenses défis sécuritaires et économiques, le président Muhammadu Buhari a appelé à construire une nation forte et indivisible. Le destin du Nigeria est d'être la plus grande nation noire de la Terre, a-t-il déclaré dans un discours à Abuja. À moins de trois semaines de la présidentielle, Amnesty International a dénoncé ce jeudi la répression des manifestations en Guinée à l'origine de la mort d'au moins 50 personnes en un an, ainsi que l'immunité dont jouissent les forces de sécurité dans un rapport jugé exclusivement à charge par le gouvernement guinéen. Le document de 63 pages souligne la responsabilité des forces de défense et de sécurité associés parfois à des groupes de contre-manifestants dans des homicides illégaux de manifestants et de passants. L'Union africaine et la CDAO ont envoyé aujourd'hui une mission à Conakry. Nous y reviendrons dans notre page magazine. En Côte d'Ivoire, l'opposition a suspendu aujourd'hui sa participation au sein de la commission électorale indépendante à un mois de la présidentielle du 31 octobre. L'ex-président Henri Konan-Bédié a appelé dimanche au nom de l'opposition à la désobéissance civile. L'opposition, qui demande notamment la dissolution de la commission électorale et du conseil constitutionnel qu'elle estime inféodée au pouvoir, laisse planer le doute sur sa participation au scrutin depuis quelques semaines. Plusieurs leaders, dont l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, où l'ancien Premier ministre Pascal Affingessan ont déjà affirmé que l'élection n'aura pas lieu tant que leurs revendications ne sont pas acceptées. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a estimé aujourd'hui qu'il fallait être de mauvaise foi pour nier les crimes contre l'humanité, voire le génocide commis en RDC, en défendant la création d'un tribunal pénal international pour son pays. Les précisions avec Nanit Talani.
Des manifestations sont prévues dans quelques villes, dont Bukavu, fief du docteur Mukwege, pour les 10 ans d'une enquête onusienne sur les violations de droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Le rapport, qui cite les auteurs présumés de chaque crime, proposait entre autres l'instauration d'un tribunal international pénal pour la RDC. Nous déplorons qu'aucune initiative ne soit concrétisée à ce jour pour appliquer ces recommandations, a déclaré le docteur Mukwege dans une tribune publiée ce jeudi par le journal français Le Monde. Il regrette que d'anciens miliciens ont été intégrés dans les forces régulières au fil des programmes de démobilisation et que des promotions ont été accordées à ceux qui devaient répondre de leurs actes devant la justice. L'enquête de l'ONU a répertorié 617 incidents violents qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre crimes contre l'humanité, voire de crimes de génocide, si les faits étaient portés à la connaissance d'un tribunal compétent, rappelle le docteur Mukwege.
Des premiers vols internationaux ont atterri en Afrique du Sud ce matin, marquant la réouverture officielle des frontières du pays après plus de 6 mois de fermeture pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, est en visite jeudi à Alger, une première depuis 2006, afin de relancer l'alliance entre les deux pays pour faire face aux djihadistes au Sahel et aux conflits en Libye. Signature demain samedi d'un accord de paix entre le pouvoir de Khartoum et les rebelles soudanais, l'accord doit mettre fin à 17 ans de guerre. Le point avec Abdulrahman Dia.
La cérémonie doit se dérouler à Juba, capitale du Soudan du Sud. Les nouvelles autorités de Khartoum et les rebelles ont paraphé le texte le 31 août, mais la signature se fera en grande pompe. C'est une journée historique. Nous espérons que la signature mettra fin à tout jamais au combat et ouvrira la voie au développement, a affirmé Souleymane Al-Dabaylo, membre de la commission gouvernementale pour la paix. L'accord est signé par la majorité des mouvements rebelles à l'exception de 2 et nous espérons que cette signature encouragera ces derniers à rejoindre le processus car le document aborde les problèmes de manière réaliste et s'il est appliqué à la lettre, il conduira à la paix, a ajouté M. Dabaylo. L'accord est composé de 8 protocoles, propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés déplacés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le groupe qui gère l'organisation des débats présidentiels a fait savoir mercredi qu'il allait prendre des mesures pour garantir l'ordre lors des 2 ultimes rendez-vous entre Donald Trump et Joe Biden après un premier débat chaotique. L'administration du président Donald Trump a annoncé une nouvelle réduction draconienne du nombre de réfugiés admis aux États-Unis. Le quota légal passera 18 000 cette année fiscale à un maximum de 15 000 les 12 prochains mois. Mohamedou Oumfa nous donne les détails.
À moins d'un changement de l'administration, au cours des 12 prochains mois, un maximum de 15 000 réfugiés pourront être admis aux États-Unis contre 18 000 précédemment. Le département d'État a fait cette annonce une demi-heure avant le 1er octobre, début de l'année budgétaire 2021. C'est un véritable tour de vis et ce chiffre est loin des 100 000 personnes accueillies annuellement sous l'administration Obama. Le département d'État a souligné que les États-Unis voulaient aider les réfugiés le plus près possible de leur pays d'origine jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. Le président Donald Trump avait déjà suspendu les admissions de réfugiés pendant des mois cette année, invoquant la pandémie du COVID-19. Pour sa part, le candidat démocrate Joe Biden s'est engagé à porter à 125 000 le nombre de réfugiés qui seront admis aux États-Unis.
Déferlante de licenciements dans les grandes entreprises américaines, durement touchées par la pandémie, les multinationales Disney, American Airlines et United Airlines ont annoncé à elles seules 60 000 licenciements en 24 heures. Les États-Unis ont prévenu jeudi qu'ils ne toléreraient pas les attaques des groupes pro-Iran contre des intérêts américains en Irak, menaçant de représailles alors que le gouvernement irakien s'inquiète d'un possible retrait de Washington. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont restés sourds aux appels à la trêve. Ils ont poursuivi leurs échanges de tirs au Nagorno-Karabakh, territoire azerbaïdjanais séparatiste soutenu par Erevan. Le point avec Lionel Lunamira Gahima.
Au cinquième jour des affrontements, l'Azerbaïdjan dit avoir pris des positions arméniennes. De son côté, l'Arménie émet des revendications similaires. Chaque camp diffuse des vidéos affirmant avoir infligé à l'autre des centaines de morts. La Russie, qui entretient des relations cordiales avec ses deux anciennes républiques soviétiques, s'est montrée inquiète du rôle de la Turquie, reprochant à Ankara de jeter de l'huile sur le feu. Ce que rejette la Turquie, les présidents russes Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et américain Donald Trump ont appelé dans un communiqué commun à la cessation immédiate des hostilités. Ils appellent les belligérants à s'engager sans délai à reprendre les négociations sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Nagorno-Karabakh, en majorité peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan, entraînant dans les années 90 une guerre qui a fait au moins 30 000 morts.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez la Miniteco signée Nanit Talani.
En République du Congo, la compagnie minière australienne Core Potash a lancé l'étude de faisabilité du projet de potasse d'extension de Dougou après avoir levé 8 millions de dollars. Selon l'agence Ecofin, Core a déjà sélectionné des consultants miniers pour lui fournir d'ici à mai 2021 des estimations plus précises sur le potentiel du projet et la meilleure manière de le mettre en valeur. Selon l'étude de préfaisabilité, Dougou peut produire annuellement 400 000 tonnes de muriate de potassium pendant 18 ans. La BAD a approuvé un prêt de 27 millions de dollars en faveur de l'agriculture au Madagascar. Le projet PTASSO sera mis en œuvre sur 5 ans à partir de 2021 dans le sud-ouest du pays. Il promouvra le secteur agricole, les produits halieutiques et les petits ruminants grâce à la transformation industrielle et aux infrastructures. Le projet bénéficiera à plus de 600 000 personnes sur une population d'environ 1 372 000 habitants. Pour terminer, au Burkina Faso, les péages routiers ont apporté 14 millions de dollars de recettes dans les caisses de l'État en 2019, soit une hausse de 15,42% par rapport à 2018. Le gouvernement veut construire 3 nouveaux péages d'ici à décembre à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Pagasikoura, bonsoir.
Bonsoir à tous. Tirage au sort des groupes de Ligue des Champions. Le tenant du titre Bayern Munich se retrouve dans le même groupe que l'Atlético Madrid. Et la Juventus de Cristiano Ronaldo fera face au FC Barcelone de Lionel Messi. Donc, la composition des groupes. Dans le groupe A, le Bayern Munich sera avec l'Atlético Madrid, Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Dans le groupe B, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan et les Allemands de Mönchengladbach. Dans le groupe C, Porto sera avec Manchester City, l'Olympiakos de Grèce et l'Olympique Marseille de France. Dans le groupe D, on aura Liverpool, Ajax d'Amsterdam, Atalanta Bergame et Midtjylland de Danemark. Dans le groupe E, le FC Séville sera avec Chelsea, Krasnodar et Rennes. Dans le groupe F, le Zenit Saint-Pétersbourg sera avec Dortmund, la Lazio Rome et le club de Bruges, les Belges. Dans le groupe G, la Juve sera avec le FC Barcelone, le Dynamo Kiev et Ferencváros. Dans le groupe H, enfin, le Paris Saint-Germain retrouve Manchester United, Leipzig et Istanbul Başakşehir. Et puis toujours en Europe, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, remporte le prix UEFA du meilleur joueur 2019-2020. Direction la RDC où le championnat reprend cette semaine et le TP Mazembe s'active sur le marché des transferts de Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
À 48 heures du démarrage du championnat de la Vodacom Ligue 1 saison 2020-2021, les champions en titre, le tout-puissant Mazembe, officialise les arrivées pour 5 ans de 2 milieux de terrain et un défenseur central, de compartiments non négligeables qui étaient dans les besoins chez les Corbeaux, Cédric Martial et Zembaï Kong en provenance des APGS Dimfu du Cameroun, les milieux de terrain de 21 ans, vainqueurs du championnat camerounais en 2018 avec Coton Sport, rejoint un club pour qui les titres nationaux est presque un acquis avant même les démarrages du championnat.
Et puis pour terminer, en basketball, un costaud porté par le tonitruant duo Anthony Davis et LeBron James. Les Lakers ont largement remporté 116 à 98 hier soir le match numéro 1 de la finale NBA contre Miami, qui a peut-être déjà perdu bien plus qu'un match avec des blessures de Bam Adebayo et Goran Dragic. Adebayo qui avait face à lui alternativement Dwight Howard, Anthony Davis, voire LeBron James, s'est fait mal à une épaule en voulant prendre un rebond au troisième quart.
C'était les sports de Bagassi pour un.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. De retour avec vous, Eric Mandrakiza, pour vous présenter les dossiers du jour. Présidentielle en Guinée, Amnesty International a publié un rapport qui accable le président sortant Alpha Condé et son gouvernement. Dans un document publié hier mercredi au lendemain des manifestations contre un troisième mandat de M. Condé, l'ONG note au moins 50 manifestants tués en un an. À moins de trois semaines du premier tour du scrutin, une délégation de la CDAO et de l'Union africaine entame ce jeudi à Conakry une mission de haut niveau sur le processus électoral. On fait le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
La visite de cette mission conjointe CDAO, Union africaine, Nations unies, intervient alors que la tension persiste et s'intensifie en Guinée à l'approche du scrutin présidentiel. La délégation, qui aura des rencontres ce jeudi et demain, devrait renouveler son soutien à la tenue d'une élection pacifique, inclusive et transparente. La nouvelle plateforme de défense des droits de l'homme, créée il y a quelques jours, apporte son soutien au rapport et parle à son tour d'une régression de la situation des droits de l'homme en Guinée. Mamadi Kaba, président de la LIDA, Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique.
On a pratiquement une régression de la situation des droits humains pour la simple raison que je vous parle de l'impunité. Il y a une forte restriction des libertés publiques. Le ministre de l'administration du territoire avait même interdit tout attroupement jusqu'à nouvel ordre, ce qui est contraire à notre constitution et aux engagements internationaux de la Guinée.
Mardi, à l'appel des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, quelques manifestations sporadiques ont été signalées dans la capitale, mais vite maîtrisées par les forces de l'ordre. Selon certains observateurs, la faible mobilisation s'explique par la participation à la présidentielle de partis membres du Front national pour la défense de la Constitution. Ibrahim Assouli Traoré, analyste politique.
La manifestation a échoué parce que, un, c'est le dernier dialogue, le principal pourvoyeur de militants ou de manifestants n'était pas dans les manifestations. Il faut se dire aussi que l'enjeu de ces élections est très important. Ça paraît être la plus importante élection de ces 10 dernières années. Il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière qui dit qu'à Conakry, 60% en tout cas des personnes sondées veulent aller aux élections.
À moins de trois semaines du premier tour, la Commission électorale nationale indépendante dit maîtriser le chronogramme. Mamadi Troakaba, porte-parole de la CENI.
Après que la CENI ait validé son chronogramme, il y a eu trois décrets. Le décret fixant le jour du scrutin, le décret convoquant le corps électoral et le décret ouvrant la campagne électorale. Donc tout ça, c'est pour dire que la CENI est résolument engagée pour respecter son chronogramme. Et nous pouvons noter cela avec satisfaction que les étapes sont exécutées, il n'y a aucun retard assumé. Et donc, pour ce qui concerne la CENI, elle est encore une fois engagée pour respecter eh bien, l'engagement chronogramme qu'elle a elle-même librement élaboré.
La campagne électorale est en cours malgré l'absence de consensus sur le fichier électoral. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, des défilés sporadiques ont eu lieu ce 1er octobre dans certaines localités des deux régions anglophones pour célébrer l'anniversaire de l'accession à l'indépendance de cette partie du Cameroun le 1er octobre 1961. Pour certains leaders anglophones, cette date symbolise leur autonomie du reste du Cameroun, ce que n'admet pas le pouvoir central qui s'oppose à toute velléité sécessionniste chaque 1er octobre dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
C'est sous la houlette des chefs de groupes armés locaux que des rassemblements ont eu lieu dans des zones reculées des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En zone urbaine, les rues sont restées désertes ce 1er octobre. À Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, ou encore à Bamenda dans le Nord-Ouest, les activités ont tourné au ralenti tout au long de cette journée. Dans la ville de Koumba, située dans la région du Sud-Ouest, l'on a enregistré chaque 1er octobre, au cours des trois dernières années, des heurts entre séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Ce jour, un climat de peur s'est emparé de la population. Les vidéos et photos de célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun, baptisé Ambazonia, ont été postées sur les réseaux sociaux, notamment par certains leaders séparatistes anglophones en exil, à l'instar de Marc Baretta. Dans des vidéos postées sur Twitter, l'on aperçoit dans un village quelques hommes armés en train de parader devant plus d'un millier de civils, brandissant un drapeau bleu et blanc et chantant Ambazonia. Le gouvernement a fait aucune déclaration sur ces activités, mais comme chaque 1er octobre, les grandes métropoles des deux régions anglophones ont été militarisées. Mais pour l'avocat anglophone Arbor Bala, je cite, « les populations ont le droit de célébrer pacifiquement le 1er octobre comme jour de l'indépendance sans interférence des soldats du gouvernement. » L'an dernier, le gouvernement a organisé le Grand Dialogue National pour apporter des solutions à la crise anglophone. Mais le président Paul Biya avait exclu le sujet de l'autonomie des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'universitaire Soumo Tayo est expert en question de sécurité.
Lors de sa tournée des provinces en 1991, le président Biya disait, je cite, « vouloir dialoguer et définir soi-même les modalités du dialogue, c'est vouloir imposer sa volonté, donc refuser le dialogue. » Il est clair qu'aujourd'hui, en procédant de cette façon, le président Biya n'est pas véritablement disposé au vrai dialogue.
Une position que ne partagent pas les alliés politiques du président Paul Biya. Professeur Sandam Thomé est diplomate et homme politique.
Nos compatriotes estiment que depuis les accords de Fumban, on n'a pas évolué, peut-être dans le bon sens, encore que quand on parle d'anglophones, ils n'y parlaient pas anglais avant l'arrivée des colons anglais. C'est des Camerounais, c'est des Bantous.
C'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun sous mandat britannique a accédé à l'indépendance, soit un an après le Cameroun francophone. En 1972, les deux parties du Cameroun ont opté pour la réunification, contesté depuis 2016 dans le cadre d'un conflit armé par les séparatistes anglophones. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, on parle d'une journée sans masque anti-Covid en Kai. C'est une ville du sud-ouest du pays où une jeune femme a trouvé la mort après son interpellation par les gendarmes pour non-port de masque. D'après ses parents et la population en colère, la victime serait décédée à cause des sévices qu'elle a subis à la gendarmerie. Les détails de notre correspondant Arsène Séverin.
Merveille Bazonzela, 23 ans, est morte dans son lit au matin de mardi. Selon sa famille et plusieurs témoins, cette fille qui souffrait d'épilepsie serait décédée des suites de sévices subis au poste de la gendarmerie de Nkayi. Ce décès a enflammé les réseaux sociaux et suscité la colère de la population dans la cité sucrière, située à environ 300 km au sud-ouest de Brazzaville. Un témoin de cette ébullition raconte.
Et nous sommes allés, donc on n'a plus le corps, nous sommes allés à la gendarmerie. On a semé le désordre, les gendarmes sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'échange de paroles avec les gendarmes, comme on était dans la masse, on a pu ravir les arbres auprès des gendarmes. Et après on a fait la casse, on a cassé les percelles de la gendarmerie, la voiture qui était là-bas aussi on a cassé. Et nous sommes, on a déposé le corps à la gendarmerie, prenez votre charge, et on a pris la direction du marché pour aller faire le désordre.
Pour apaiser la situation, le maire de Nkayi, Gaston Mampassi, s'est rendu à la gendarmerie où les parents de la défaite avaient déposé le corps de leur fille en guise de protestation.
La situation, oui, il faut le reconnaître qu'elle a été aussi trouble. Ça n'a pas été facile de maîtriser cette foule. Les gens, sachant qu'elle était interpellée par les services de gendarmerie, et donc ça a provoqué une grande réaction à la découverte de sa dépouille mortelle au grand matin. Mais dès lors que la dépouille mortelle a été arrachée aux mains de la famille dans les locaux de la gendarmerie pour être déposée à la morgue municipale, la foule s'est dissipée. Mais cette fois-ci, ils se sont dirigés vers le marché où ils avaient été animés aussi par les velléités les plus simples, c'est d'éventrer les magasins dans le marché central de Nkayi, ce qui a été pratiquement empêché par notre réaction. Dès lors, bon, on peut dire que la situation est revenue au calme.
Les parents ont affirmé à VOA Afrique que leur fille, qui venait de voir ses dernières règles, n'était pas enceinte ni sourde. La justice a aussitôt ouvert une enquête. L'OCDH, arrivé sur les lieux, appelle à accélérer cette procédure. Monica Ngalula est responsable juridique à l'OCDH.
Que la justice fasse un effort d'identifier les présumés auteurs de ce crime et qu'ils répondent à leurs actes devant la justice. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut les relever de leurs fonctions. Oui, ça ne suffit pas, mais nous voulons que ces auteurs répondent de leurs actes.
Interpellé pour non-port de masque, Merveille Bazonzela a été tabassée par les gendarmes à terre, dans le véhicule et au commissariat. Selon un co-détenu, elle a été libérée dans la nuit alors qu'elle commençait à agoniser. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition, ainsi va le monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production. Michel Joseph a assuré la mise en onde. À la présentation, c'était Eric Manilakiza. Merci de nous avoir suivis ce soir chez vous. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les peuples de nombreux pays ont exulté lorsque leurs dirigeants ont signé des accords avec le gouvernement chinois ou des entreprises chinoises, souvent la même chose, pour construire des usines, des ports et des infrastructures dans leur pays. Mais les rêves locaux d'emploi découlant de ces transactions ne se réalisent pas, note Robert Destreau, secrétaire d'État adjoint chargé de la démocratie, des droits humains et du travail. Par exemple, en Éthiopie, où ils importent des travailleurs de Chine, les amènent en Éthiopie et les utilisent pour saper le marché local du travail, a-t-il dit. La même situation se passe dans d'autres pays, du Vietnam à la Jamaïque, où la Chine déploie des centaines de milliers de ses travailleurs. Ce ne sont pas seulement les travailleurs locaux qui sont affectés par ces politiques du gouvernement chinois et de ses compagnies. Les travailleurs chinois eux-mêmes en sont souvent victimes. Ils sont soumis à des travaux forcés dans des conditions misérables et dangereuses. Ils doivent fréquemment payer des frais ou des cautions de sécurité qui les rendent vulnérables à la coercion basée sur les dettes. Ils travaillent de longues heures et leurs salaires sont bas et outrageusement retardés. Les travailleurs chinois, a dit le secrétaire d'État adjoint Destreau, sont traités comme des objets, non comme des personnes. Un cas ici aux États-Unis illustre ces abus. En mars 2019, Dan Zhang, ancien diplomate chinois et directeur des opérations d'une entreprise chinoise de construction, a été jugé coupable de recours aux travaux forcés et autres chefs d'accusation par un jury fédéral de New York. Ce sont des êtres humains forcés de travailler 7 jours sur 7 sans salaire et forcés de vivre dans un logement sordide avec des dizaines d'autres sous la garde de sentinelles qui les rattrapent et les ramènent sur les lieux de travail lorsqu'ils s'échappent, a expliqué le directeur adjoint du FBI William Sunney. Monsieur Zhang et d'autres personnes pourraient avoir cru qu'ils pouvaient s'en tirer avec le trafic d'êtres humains et le travail forcé dans ce pays du fait que le gouvernement chinois ne respecte pas les lois des pays dans lesquels il opère, mais ils feront maintenant face à la justice pour leurs crimes. Le mépris de l'état de droit par le gouvernement chinois et ses mandataires a des conséquences étendues et des effets délétères non seulement sur les citoyens chinois sous un brutal contrôle en Chine, mais pour les travailleurs, y compris les travailleurs chinois à travers le monde. Les États-Unis continueront de faire pression pour la transparence et l'imputabilité afin que les droits et les libertés fondamentales de tous les gens, y compris leurs droits en matière de travail soient reconnus.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.